parce qu'on pourra préparer la première strophe du « Pardon Seigneur ». Je vais d'abord vous lire un passage qui est très connu et qui est une mine d'inspiration pour des messages. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, les 12 premiers versets. Passage très connu de la guérison d'un paralysé porté par des amis. Mais ce n'est pas sur cet aspect que j'aimerais attirer votre attention. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit leurs raisonnements intérieurs et leur dit « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile ? De dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient tous hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ou de paradoxal. » Le mot est le seul mot employé. Dans tout le Nouveau Testament, ce n'est pas rien de pareil, c'est paradoxal. Et c'est vraiment paradoxal ce qui se passe dans ce récit. Lors de ce texte, on a pu tirer des messages sur le pardon, bien sûr, sur la puissance de guérison du Seigneur, sur la foi des amis de se paralyser, sur la diversité des pensées qui animent les auditeurs de Jésus, certains sont sceptiques, d'autres sont admiratifs, certains se posent des questions, jugent mal, etc. Mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais m'attarder ce matin. Quand j'ai lu ce texte, un mot m'a frappé, c'est le mot « facile ». Qu'est-ce qui est plus facile ? De dire « tes péchés sont pardonnés » ou « lève-toi, prends ton lit et marche ». Ça m'a d'autant plus frappé que dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ, le mot « facile » revient très rarement. C'est plutôt « difficile ». Qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et à Nicodème, il lui a dit « mais tu ne peux pas rentrer si tu ne te convertis pas, si tu ne nais pas d'en haut ». Dans le langage de Jésus, il y a beaucoup plus l'insistance sur la difficulté, les efforts à fournir. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, d'emprunter le chemin étroit et pas la porte large. » Et là, brusquement, qu'est-ce qui est plus facile ? De dire « tes péchés sont pardonnés » ou « lève-toi, prends ton lit et marche ». On a chanté un certain nombre de cantiques sur le pardon. Alors évidemment, le pardon, c'est ce que Dieu m'accorde, c'est ce que je demande. C'est ce que je demande à ceux que j'ai offensés et ce que ceux-là peuvent m'accorder. Alors j'aimerais qu'on passe juste la première strophe. On aurait pu aussi chanter « Pardon, mon frère, pour mon orgueil, pour mes paroles blessantes. Pardon, ma sœur, pour les mêmes choses. » Et ça, c'est immédiatement après nos fautes. Et puis au bout d'un certain temps, quand l'autre nous a fait le même cantique, les mêmes paroles, pouvoir lui dire « Je te pardonne, mon frère, je te pardonne, ma sœur, ou je te pardonne, ami rencontré sur le lieu de travail. » Il y a un lien entre le pardon que Dieu accorde et celui que nous accordons à la suite des blessures qui ont pu nous être infligées. Le pardon, dans le thème qui est abordé, moi et l'Église, est important. D'abord avec Dieu, il règle mon problème éternel. Mais le pardon que j'accorde ou que je demande au sein de la communauté ecclésiale est important pour notre marche commune, pour notre harmonie, pour les progrès de la famille que nous composons. La Bible souligne d'ailleurs le lien entre les deux. Dans le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, si vous ne pardonnez de tout votre cœur, Dieu ne vous pardonnera pas. Alors, le pardon de Dieu est inconditionnel. Même si nous n'avions pas pardonné ou pas parfaitement pardonné, notre pardon de la part de Dieu n'est pas remis en cause. Est-il vraiment facile de pardonner? Est-ce que Jésus a voulu faire un jeu de mots? Est-ce qu'il a voulu simplement nous heurter, nous choquer? C'est facile quand on s'appelle Jésus. Quand on peut dire de la même façon, « Lève-toi et marche » à un paralysé. Mais moi, je ne peux pas le faire. Pour moi, le pardon n'est pas facile. Et s'il est facile pour Dieu, il est facile dans son champ de vision, dans sa perspective, pas dans la mienne. Et je vais vous montrer tout à l'heure le prix, les efforts, tout ce qui a coûté à Dieu pour nous accorder son pardon. Le pardon n'est pas facile dans les relations humaines. Je vais rapporter juste trois anecdotes. Louise vit une situation enviable. Elle a un mari chrétien engagé dans la vie d'église. Ils ont 4 enfants, une très belle maison. À côté de ça, il y a quelques petits problèmes conjugaux, mais ils n'ont pas jugé utile de faire appel à un conseiller. Ils vivotent, ils vivent, comme la plupart des foyers. Puis un beau jour, sans crier gare, sans le moindre signe annonciateur, le mari quitte sa famille et va à l'étranger. Il ne donne plus de nouvelles à sa femme, ni à ses enfants, et plus que cela, pas le moindre euro, pas le moindre centime à cette femme qui n'a d'autres revenus. Elle est obligée de déménager, quitter cette belle maison, trouver un appartement beaucoup plus petit, beaucoup moins cher, réduire son train de vie. Elle connaît l'humiliation de ses voisins. Elle est tellement fauchée qu'elle se prive de nourriture. Elle devient anorexique. Tout dans sa vie bascule. Tout lui rappelle un choc traumatique. L'église dans laquelle son mari occupait un poste relativement important vont la trouver. Mais Louise, tu dois pardonner. Elle ne peut pas pardonner. Sa situation a basculé. Elle ne peut pas pardonner. Par contre, elle demande à Dieu de le faire. Alors, ça peut nous choquer, mais dans le Quad 9, j'ai indiqué 2 versets de référence. Jésus n'a pas pardonné à ceux qui le persécutaient. Il a demandé à Dieu, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et de même, Étienne, quand il est lapidé par les Juifs, les pharisiens et autres, il ne dit pas « Je vous pardonne ». Il ne dit pas « Je ne vous charge pas de ce péché ». Mais il demande à Dieu, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché, ne les charge pas de ce péché. » C'est l'attitude que cette femme chrétienne a adoptée. Elle n'a pas pardonné, et elle le dit clairement, « Je ne peux pas pardonner, moi, à mon mari, pour ce qu'il a fait. » D'autant plus que, je résume l'histoire, il a demandé pardon à des amis qu'il avait abandonnés, avec lesquels il s'entretenait bien, mais jamais il n'a demandé pardon à sa femme. Un autre cas, Jacques revient d'une fête, la nuit, dans sa voiture, il y a lui, sa femme, sa mère et 4 de ses enfants. Au moment d'aborder un virage, une voiture en face, conduite par un monsieur, pas chrétien, accompagné de sa femme, ivre les deux, le mari et sa femme, le choc est inévitable et Jacques perd dans l'accident sa mère, sa femme, et une de ses filles. Trois dames, trois générations différentes. Procès, les témoignages et les contre-témoignages se succèdent. Dans l'autre voiture, le chauffeur et sa femme survivent. On ne saura jamais qui conduisait la voiture au moment de l'accident. Alors, au bénéfice du doute, aucun n'est condamné. Les coupables ne sont pas condamnés. Le procès va durer des années. Le chauffard sera acquitté. On ne sait pas si c'est l'homme ou la femme. Il faudra des années pour que Jacques, dont la vie a été bouleversée, qui a dû changer son rythme de travail pour élever ses enfants en l'absence de leur maman, pour que Jacques arrive à pardonner. Mais il y arrivera. Il pardonnera à ce chauffard et il en fera un ami, peut-être pas un ami intime, mais il finira par lui parler, par lui pardonner l'accident qui avait coûté la vie à ses proches. Il renoue, lui, un contact avec le coupable. Troisième exemple, Diana, peu après son mariage avec un chrétien qui exerce des responsabilités dans une église, la frappe. Peu après le mariage, elle est battue. Ça va durer longtemps. Et tuméfiée, elle va se rendre voir la femme du pasteur. Elle se confie à cette femme du pasteur. Vous savez ce qu'elle lui dit ? Tends l'autre joue. Et la femme ne divorcera pas. Pendant 20 ans, elle subira les coups, les offenses, les injures, les maltraitances. Elle découvrira 20 ans plus tard que son mari avait abusé sexuellement de leurs enfants. Elle demande le divorce à ce moment-là. Et l'Église ne la comprend pas. Elle est obligée de quitter l'Église. Elle dit qu'elle ne pardonne pas à son mari. Simplement, elle n'y pense plus, elle ne veut plus y penser. Elle se contente d'avoir déchargé son fardeau, mais elle ne pardonne pas et elle ne demande pas à Dieu de pardonner. Ce qu'il y a de choquant dans ces trois cas, c'est que ça se passe dans des milieux chrétiens et que des chrétiens bien intentionnés ont été voir les personnes meurtries et leur ont dit à peu près le même langage « Tu dois pardonner, sinon Dieu ne te pardonne pas ». Mais là, le conseiller n'est pas le payeur. Et le reproche que Jésus a pu adresser aux pharisiens de son temps pourrait être adressé à ces personnes-là, parce qu'elles ne font que accabler, mettre un fardeau supplémentaire sur les épaules de dames ou de messieurs qui ont déjà terriblement souffert, et au lieu de les aider à porter ce fardeau ou de les accompagner, on leur donne un bon conseil, facile à donner. Oui, dans ce cas-là, le pardon est facile. Pardonne. Tu dois pardonner, sinon Dieu ne te pardonne pas. On peut encourager à pardonner sans faire preuve de la moindre empathie. Parce que c'est facile. Parler, c'est simplement faire vibrer de l'air. Ça n'a pas beaucoup plus d'efficacité. Ce n'était pas le cas dans le cas de Jésus. Quand il a dit, il est facile de dire, je pardonne, il en a donné la preuve en disant, lève-toi et marche. Et la même efficacité qu'il avait fallu pour lever le paralysé, il avait fallu pour pardonner les péchés de cet homme. Alors la facilité de pardonner et le délai nécessaire pour accorder le pardon dépendent évidemment d'un certain nombre de facteurs. D'abord de la nature des liens entre les personnes concernées. Et un mari qui maltraite sa femme, comme dans les cas que je vous ai mentionnés, on ne peut pas lui pardonner en 24 heures. Le pardon dépend également de la gravité de l'offense. Si quelqu'un me bouscule dans la rue et me demande pardon, j'ai aucun problème. Mais je l'excuse tout de suite. C'était pas volontaire, c'est pas méchant, c'est pas grave. Si l'offense est beaucoup plus grave, peut-être me faudra-t-il plus de temps pour réfléchir, chercher la motivation qu'il avait lui, peut-être aussi les torts que j'ai de mon côté pour l'avoir irrité. J'y reviendrai. La durée du pardon et le temps qu'il faut dépendra aussi des excuses et peut-être de la réparation qui aura été apportée par le coupable. Et je ne parle pas de l'identité du coupable. Quand c'est une personne, c'est facile. Quand c'est un groupe, voire une nation, c'est beaucoup plus difficile. Et vous savez que les Allemands, en tant que peuple, ont demandé pardon au peuple juif pour ce qui s'était commis pendant la guerre. Le pardon est indispensable si on veut renouer des relations dans un couple, entre amis et entre nations. Les exemples que je vous ai donnés montrent qu'il est parfois difficile pour l'homme de pardonner à ses semblables, en l'occurrence l'homme et la femme. Alors que généralement, même s'il a été victime d'une maltraitance, il y a probablement, lui, une raison, peut-être minime. Il y a des réactions parce qu'on utilise un langage mal choisi. On peut blesser par une parole. Et alors on est surpris quand la personne en face de nous nous maltraite d'une certaine manière. Si, pour les hommes, accorder le pardon à autrui est difficile, à combien plus forte raison pour Dieu ? Parce que lui n'a aucun tort. Quand on nous maltraite, on peut chercher en soi-même. Qu'est-ce que j'ai pu lui faire ? Qu'est-ce que j'ai pu lui dire ? Mais jamais Dieu ne peut avoir cette moindre pensée à l'esprit. Lui, par contre, il est victime de toutes sortes d'attaques. Certaines sont violentes, d'autres moins. Il y a l'ingratitude, la désobéissance à ses lois, ou l'indifférence à son égard. C'est une offense contre Dieu. On le méprise. Et puis il y en a d'autres qui sont de vraies provocations, des blasphèmes que l'on adresse à Dieu. L'ingratitude, les injures, le mépris. Et Dieu pardonne. De par sa nature et son hérédité, l'homme est coupable de son propre malheur, sur le plan personnel comme sur le plan collectif. Et Dieu pardonne. Si Dieu n'était pas que justice, sainteté et colère, heureusement qu'il ne l'est pas que cela, nous ne serions pas pardonnés. La vengeance serait terrifiante, terrible. Mais Dieu ajoute d'autres attributs que vous connaissez. Le pardon a des effets bénéfiques. Pour Jésus, tout est facile. Pourquoi ? Parce qu'il a une grande puissance et un grand amour. On ne peut pas dissocier puissance et amour dans l'octroi du pardon de la part de Dieu. Un amour extraordinaire. Dans le récit que je vous ai lu, il aime se paralyser, sinon il ne l'aurait pas guéri. Et il aime et lui pardonne. Il a l'amour et la puissance de pardonner et de guérir. La parole de Dieu est puissante. Je l'ai dit, ce n'est pas une simple vibration d'air. Hébreu le dit, par sa parole puissante, il soutient l'univers tout entier. On voit quelque chose d'ailleurs de cette puissance, même quand il fait un miracle. Dans le cas de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, Jésus dit « J'ai senti une force sortir de moi ». Ce n'est pas banal. Ce n'est pas un prestidigitateur que nous avons en Jésus-Christ. Il met en œuvre une puissance qui nous échappe, un effort qui émane de lui-même, qui sort de lui, et évidemment un amour qui nous dépasse. Ces deux qualités, puissance et amour, Jésus les démontre dans le cas du paralysé. Et il donne ainsi un aperçu de l'immensité de l'amour et de la puissance qu'il met en œuvre pour nous accorder son pardon. Pour accorder son pardon à un individu, pas un pardon général, global. Tes péchés sont pardonnés, dit-il. Et dans un autre récit, celui de cette femme qui est non invitée, mais qui se présente chez le pharisien qui avait invité Jésus, Jésus dit « Ses nombreux péchés ont été pardonnés ». Et je peux dire « Mes innombrables péchés ont été pardonnés ». Parce que Jésus est puissant et parce qu'il est amour. Vous aurez du mal sans doute à croire qu'il fallait que Dieu exerce beaucoup de puissance pour pardonner. Quand Jésus est annoncé, on parle d'un prodige. C'est pas banal, la venue de Jésus-Christ. L'incarnation annonce la délivrance des péchés. C'est ce que annoncent les anges. Il vous est né un sauveur, un libérateur. C'est lui qui libérera, qui délivrera son peuple de ses péchés. Vous garderez les références. Mais cette naissance, est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est banale? Pouvez-vous imaginer un Dieu créateur de tout entrer dans un corps qu'il crée? Un Dieu qui est avant tout et qui prend naissance à un moment T du temps chronologique des hommes. Un Dieu qui naît autrement que tous les autres êtres humains. Sera l'objet de sarcasme. On traitera Marie de prostituée peut-être, ou d'infidèle. Mais Jésus, le Fils de Dieu, est né d'une manière impossible aux hommes. Il le fallait qu'il naisse ainsi pour pouvoir m'accorder un jour son pardon. Cette réduction de Dieu, infinie dans toutes les dimensions, qui va se retrouver limitée dans un corps humain, limitée corporellement, géographiquement, et en même temps, dans sa connaissance, il se limitera, il dira qu'il ne connaît pas le jour et l'heure de son retour. Beaucoup d'impossibilités normales pour l'homme, pour Dieu. Et puis il y aura la crucifixion. Elle est une imposture. C'est une mascarade de jugement, de tribunal. Et la Bible le présente comme un triomphe sur le péché. La condamnation de Jésus-Christ, c'est une impossibilité. Comment le juste peut-il mourir? Seul le pécheur devait mourir. Or là, bien sûr, nous savons qu'il y a le transfert de notre responsabilité, de notre culpabilité sur Jésus-Christ. Mais humainement, Jésus ne devait pas pouvoir mourir. Et s'il est quand même mort, c'est pour pouvoir me pardonner un jour. À cela s'ajoute la résurrection. Jamais on n'avait vu quelqu'un sortir d'un tombeau. C'est impossible. L'impossible résurrection, l'impossible sortie du tombeau, elle fera l'objet de sarcasme et de doute. Mais le fait est que pour que moi je sois pardonné, il a fallu que Jésus meure et sorte du tombeau, inverse le cours de la décadence, de la déchéance, de la dégradation corporelle. Paul en fait d'ailleurs un raisonnement dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore pécheurs. Votre pardon nécessitait la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et puis il y a l'ascension. Avez-vous jamais vu quelqu'un monter au ciel comme ça? C'est pas évident. Toutes les lois sont bafouées. L'impossible ascension, pourquoi? Pour que Dieu puisse me pardonner. Alors, c'est peut-être facile au niveau de Dieu, ça ne l'est pas au niveau de la raison humaine. C'est le triomphe de Dieu sur toutes les lois de la gravitation universelle. Alors, quand vous faites cette succession de choses impossibles, peut-être vous mesurez-vous que le facile est à l'échelle de Dieu, pas à l'échelle de l'homme. Mais c'est ce qu'il fallait pour que j'aie, moi, aujourd'hui, le pardon assuré de mes péchés. Alors oui, le péché, le pardon humain est beaucoup plus facile. Nous ne pourrions pas, nous, effacer les offenses d'autrui, c'est évident. Et quand on ajoute le petit « comme, pardonne-nous, comme nous pardonnons », il y a un monde évident entre l'original et la copie que j'essaie de reproduire. Il est relatif, cette comparaison relative, mais elle n'est pas sans signification et sans aucune valeur. Je ne sauverai pas celui qui me demande pardon. Dieu me sauve si je lui demande pardon. Pour en revenir aux relations humaines et d'ailleurs aussi à la relation avec Dieu, la démarche du pardon est extrêmement coûteuse. Si c'est une vraie démarche de pardon. À partir du moment où moi, être humain, j'entends quelqu'un me demander pardon, pour le lui accorder, il faut que je fasse table rase de toutes mes idées préconçues de me venger. Je suis obligé de faire stopper tout le mécanisme que j'avais peut-être élaboré pour me venger, pour faire du tort. Encore faut-il aussi que la demande de pardon, la mienne que j'adresse ou l'autre, ou celle de l'autre qui m'est adressée, soit sincère. Il y a des témoins, Dieu est témoin. Beaucoup de gens disent « je te pardonne ». Je n'ai pas à juger. Mais je sais que dans mon cas, si je demande pardon, si je veux qu'il soit sincère, ça me coûte. Ce n'est pas simplement une parole en l'air. Si il m'arrive de pouvoir réparer, puisque ça peut souvent accompagner la demande de pardon ou l'accord du pardon, si j'ai une responsabilité, ça me coûte. La Bible le dit, quand on peut réparer, il faut le faire. Et ça pouvait coûter dans l'Ancien Testament. Il fallait restituer un peu plus d'animaux qu'on avait pris ou qu'on avait tués. Mais justement parce que ce pardon coûte, il a de la valeur. Il est efficace. Je l'ai noté dans ma relation avec moi-même, parce qu'il m'apaise. Il tue le ressentiment que j'avais contre autrui. Si c'est un vrai pardon, ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Il guérit parfois l'amertume. De nombreux témoignages sont là. Rappelez-vous de Corrie ten Boom, qui a souffert et qui a rencontré un de ses bourreaux. Et bien d'autres cas où le pardon qu'ils ont accordé a redonné la santé morale, psychique, profonde de celui qui était meurtri et qui peut-être nourrissait des idées de vengeance. Le pardon est efficace, pas simplement pour moi, mais aussi dans ma relation à l'autre. C'est la suppression d'un obstacle à la réconciliation. Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans pardon. Ça serait un semblant de réconciliation. Et puis surtout dans ma relation avec Dieu. Si j'essaie de bien comprendre ce qu'est le pardon que je dois accorder, je me rends mieux compte de ce qu'est le pardon que Dieu m'a accordé en réponse à ma requête. Et là, alors, je ne peux que goûter à la joie de l'obéissance. Il y a cependant des cas où le pardon n'est pas possible parce que l'un des deux est décédé. Ou dans un des cas que je vous ai signalé, c'est trop difficile, c'est trop dur. Alors le conseil que certains psychologues, psychothérapeutes donnent, c'est ce qu'on appelle lâcher prise, déposer un fardeau. C'est trop lourd pour être porté, trop compliqué pour être résolu, alors déposer le fardeau. Il y a des moments où le coupable nie ou rejette sa culpabilité. Et il n'a même que faire de mon pardon. Il se moque de ce pardon que peut-être je lui ai proposé. Il y a des cas où l'on ne peut plus pardonner. Faut-il pour autant se culpabiliser jusqu'à la fin de sa vie? Certainement pas. Notre salut n'est pas conditionné à ce pardon-là. Je l'ai dit tout à l'heure, je termine par ces quelques remarques. Dans ce récit, Luc utilise un mot. Paradoxal. C'est paradoxal ce que Jésus fait. C'est anormal, c'est illogique, c'est contre toutes les lois connues. Accordez le pardon à ce pauvre homme. Soyons rassurés aussi que le pardon n'est pas le remède miracle. Il ne supprime pas le vécu, ni la souffrance. Il peut l'atténuer, il nous aide à ne plus l'entretenir, cette souffrance. Mais il ne supprime jamais le vécu abusif qu'on a pu subir. Et de même que le pardon que Dieu nous donne répond à une confession. Nous reconnaissons que nous avons fait du tort, que nous avons fait du mal, que nous avons meurtri quelqu'un. Nous ne pouvons accorder un pardon que si l'autre reconnaît au moins, dit la vérité des sentiments qui l'ont animé quand il nous a fait du mal. Et puis il y a une petite remarque. Le mot « pardon », on peut le décomposer. En français, ça ferait « pardon ». C'est un don. Dieu nous le donne en don. Et si nous l'accordons à autrui, ce n'est pas en échange de quelque chose. Il n'y a pas de marchandage. C'est un don. Et les Anglais ont un mot « forgive ». C'est pour don. C'est pas simplement un geste, mais parce qu'on fait un don, on donne le pour don. Le pardon est un cadeau que l'on veut offrir, que l'on peut offrir, que l'on doit offrir si l'on veut ressembler davantage au Seigneur et obéir au commandement qu'il nous a donné de nous pardonner les uns les autres.